Oh ben, il me reste que 3 lettres, mais je vois pas ce que je peux faire avec.
C'est quoi tes lettres?
J-A-T.
Je sais. Agité du local.
Je ne sais pas toujours quoi faire de mes 10 doigts. Je ne suis pas toujours habile et pourtant, quand je vois le savoir-faire d'artiste ou d'artisan, ce qui semble facile à regarder est en fait technique quand on met la main à la pâte. Christine Roqueplot est céramiste à Champs-Généteux. Elle crée dans le domaine des arts de la table et sera présente au salon Made in France Expo à Paris pour présenter ses créations. Et aujourd'hui, on a le plaisir de l'avoir à notre micro. Mais soyez patients, on y arrive dans quelques instants. Chers gastro-gontériens, restez bien avec nous puisque dans la suite de cette émission, Philippe Henry, maire de Château-Gontier, nous dit quelques mots sur les projets en cours et à venir sur le territoire. Et pour échanger avec la population, il organise des réunions publiques dans les différents quartiers de la ville. Il nous en parlera en seconde partie d'émission. Pour terminer, comme chaque mardi, c'est la chronique de Donatien et j'ai le plaisir d'avoir juste à côté de moi Lucie. Bonjour Lucie.
Bonjour à tous.
Je te propose de commencer par un petit point sur les actualités.
Avec plaisir. Eh bien, c'est les vacances, chers auditeurs, mais ça n'est pas une raison pour se tourner les pouces. Pour ça, la Maison des Initiatives Jeunesse a mis en place le dispositif Argent de Poche, un chantier citoyen auquel les jeunes de 16 à 18 ans étaient invités à participer. À Lesbois, à Levaret et à Jublin, par exemple, ils ont pu faire un peu d'entretien de patrimoine, du désherbage ou même participer à la mise en valeur d'un espace dédié aux livres.
Et nous, Lucie, on n'a pas entre 16 et 18 ans. Est-ce qu'on peut quand même faire quelque chose?
Tout à fait, Margot. Figure-toi que depuis une semaine, notre département a mis en place l'heure civique mayonnaise. Elle permet de participer à la solidarité au sein de son quartier ou tout simplement d'aider un voisin qui en a besoin, par exemple. Vous pouvez trouver toutes les infos sur le site internet lamayenne.leurecivique.fr.
En parlant de solidarité, il me semble que la ville de Renazé a prévu un programme de sensibilisation contre le harcèlement.
Effectivement, la ville a décidé d'orienter son mois de novembre autour de cette thématique et plusieurs temps sont mis en place. Des expositions, ateliers prévention, ateliers d'écriture sur le harcèlement à la médiathèque de Renazé et surtout, le 17 novembre, une soirée théâtre forum à 20h à la salle de l'Escale. C'est gratuit sur réservation au 02 43 06 55 80.
Et Lucie, tu m'as entendu hier, j'ai rapidement parlé des records de pluie. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose?
Eh bien, je te propose d'y voir le positif, Margot. C'est la levée des restrictions d'eau dans notre département, puisque les cours d'eau qui étaient concernés sont revenus au-dessus des niveaux de vigilance. Ceci dit, chers auditeurs, restez vigilants vous-même puisque dans les jours qui viennent, la tempête Ciaran approche par les côtes bretonnes et affectera a priori notre département dans la nuit du jeudi 2 novembre.
On sera prudent alors, sans tomber dans la panique non plus, bien sûr, des sorties culturelles à nous partager peut-être pour terminer, Lucie.
Avec plaisir, Margot. Pour commencer, Atmosphère 53 vous propose, dans le cadre du festival Pupazzi, des ateliers autour de l'animation au 40 à Laval. Il vous donne rendez-vous demain à 11h et à 16h pour les projections de courts-métrages et de 14h à 15h30 pour des ateliers stop-motion de 30 minutes. Ça se passe donc aux 40 rues du Britet à Laval et pour ceux qui veulent s'y inscrire, il faudra appeler le 02 43 49 86 30. Toujours pour les cinéphiles, le jeudi 16 novembre, la Jeune Chambre économique de Laval vous propose une projection du classique Dirty Dancing avec boissons, restauration et animation sur place. Ça se passera à la SCOMAM à Laval avec une entrée à 5 euros. Vous pourrez arriver dès 19h30 et la projection sera à 20h30. Bon, et puis entre-temps, le MANAS, ou Musée d'art naïf et d'art singulier de Laval, vous propose le projet Amasia. Il s'agit de célébrer la réunion de la musique et du dessin à travers un univers d'anticipation. Vous êtes invité à ce concert jeudi 2 novembre à 20h30, au MANAS, donc, place de la Trémoille à Laval. C'est gratuit et sans réservation.
Merci Lucie. Bonjour Christine Roqueplot, vous êtes céramiste à Champs-Généteux. Vous serez présente à la 11e édition du salon Made in France Expo à Paris, porte de Versailles, qui aura lieu du 9 au 12 novembre. Ce salon, c'est le grand rendez-vous du savoir-faire français qui rassemble 100 000 visiteurs chaque année. Et si vous êtes présente sur ce salon, c'est notamment parce que vous avez fait le choix de fabriquer en France, et même particulièrement de vos mains. Et donc ici, on parle vraiment d'artisanat et de savoir-faire. Donc merci d'être avec nous aujourd'hui, je suis ravie de vous recevoir.
Merci, je suis ravie également.
Moi, j'ai envie de savoir, et nos auditeurs aussi, comment a commencé votre passion pour la céramique ?
Alors tout d'abord, je tiens à dire que je suis issue d'une famille d'artistes, hein, qui a beaucoup de peintres et dessinateurs, donc c'est tout naturellement que je me suis orientée vers une formation plutôt artistique. Et puis la vie a fait que j'ai travaillé longtemps dans la communication, mais en parallèle, j'ai travaillé donc la céramique en découvrant d'ailleurs cet art, en ouvrant la porte d'un atelier un jour. Et puis depuis 28 ans, en fait, je fais de la céramique très régulièrement. Jusqu'au jour où j'ai décidé de faire une formation pour pouvoir pratiquer quotidiennement cet art.
Donc cette formation, c'était sur Paris, je crois.
Voilà, cette formation était sur Paris. C'était la formation art et technique céramique, pendant laquelle donc, j'ai appris à tourner essentiellement. Après, effectivement, j'ai également appris d'autres pratiques de modelage.
On peut parler d'art, enfin moi je le perçois réellement comme ça, parce que vous mettez vraiment votre patte dans ce que vous fabriquez.
Eh bien oui, je travaille avec mes mains. C'est vraiment un vrai plaisir de pouvoir passer aussi du dessin, de ce que j'imagine, à ce travail sur le tour. Qui est assez physique et qui est très agréable. C'est vraiment une sensation très, très douce, en fait, de tourner et de tout oublier, d'ailleurs, quand on est sur son tour, et de se concentrer sur la forme.
Justement, j'ai envie de vous demander, comment ça se passe, la fabrication d'objets ? Vous avez choisi, d'ailleurs, en céramique, de vous tourner vers les arts de la table.
Écoutez, oui, effectivement, j'aime bien fabriquer des objets qui seront utiles pour le quotidien. Puis j'aime aussi fabriquer des vases, des choses un peu plus décoratives. Mais je travaille donc essentiellement le grès.
Ça, c'est la matière ?
Ça, c'est la matière.
Donc le grès, donc on part de cette matière, et ensuite comment ça se passe ? Cette matière, c'est une sorte de bloc ?
Alors en fait, c'est de l'argile que l'on prépare d'abord avant de la tourner. Ensuite, une fois qu'on a élaboré la pièce, eh bien on l'a fait un peu sécher, et puis on la retravaille quelques heures plus tard ou le lendemain pour faire le pied, pour affiner un petit peu la pièce. Et puis ensuite, il y a toute la période de séchage, où là, ça dépend évidemment de la température, mais bon, environ quelques jours, voire semaines, quand on fait des choses vraiment très, très épaisses. Des sculptures seraient plus longues, évidemment, à sécher. Et puis ensuite, je fabrique l'émail. Si bien qu'une fois que mon émail est prêt, d'abord je fais une première cuisson, et une fois que la première cuisson est faite, je l'émaille et je fais ensuite une deuxième cuisson.
Donc l'émail, c'est la matière que vous mettez par-dessus donc le grès.
Voilà, c'est une matière donc qui permet de protéger la pièce, c'est justement de pouvoir lui donner son utilité, c'est-à-dire que si on ne l'émaille pas, on ne pourra pas s'en servir pour y verser du thé, du café, enfin voilà.
Et donc vous fabriquez vous-même votre émail ?
Voilà, oui, je fabrique mon émail, donc j'utilise pour ça des matières premières telles que le kaolin, le talc, le carbonate de chaux, le feldspath, enfin différentes matières que je réunis. Et une fois que j'ai fait des bases, eh bien je vais les colorer, donc avec des oxydes ou des pigments naturels. Et là, je fais en général...
Toute une technique.
Oui, oui. C'est ça qui me plaît aussi, c'est justement cette association de travail comme ça, peut-être un peu intuitif aussi, puis ensuite de technique. Donc pour ce qui est émail, je fais des tests évidemment en petit. Donc on détermine un peu des couleurs, et puis une fois qu'on est satisfait d'une couleur, eh bien, je la réalise en plus grosse quantité pour émailler donc les pièces, en général dans des seaux. Donc je trempe les pièces dans des seaux. Et puis parfois, je les continue au pinceau en les mettant sur une tournette.
J'ai envie de vous poser une question, mais je pense que c'est très aléatoire. Une pièce, par exemple, là, j'ai le plaisir d'avoir sous les yeux un vase et une théière. C'est combien de temps, par exemple, pour ce vase? Vous avez combien de temps de travail derrière un objet comme celui-ci?
Alors, écoutez, en tout et pour tout, ça peut passer d'une heure à deux heures, à parfois quatre heures pour une théière, parce qu'il y a plusieurs étapes, en fait. On fabrique, on fait le couvercle, après on fait le bec, puis la hanse. Et tout ça doit être assemblé avec une terre qui a la même consistance, la même hygrométrie. Et ensuite, voilà, on appelle ça le garnissage, donc quand on assemble les pièces. Et ensuite, il faut que ça sèche. Et puis, il y a donc ensuite cette étape d'émaillage. Et une fois que c'est émaillé, on peut être obligé d'arranger des petites choses, enfin voilà, de peaufiner. Et ensuite, il y a toute la partie enfournement qui prend aussi du temps, parce que quand on a beaucoup de pièces, on doit les déposer délicatement dans le four sans qu'elles ne se touchent. Voilà, donc ça fait partie aussi du temps nécessaire pour que la pièce soit complètement finie. Puis ensuite, la cuisson. Les deux cuissons prennent à peu près 40 heures, donc ça fait...
Ça fait du temps.
Trois jours au moins de cuisson.
Parce qu'on n'imagine pas toujours tout ce qu'il y a derrière. Quand on voit un objet, on peut le trouver magnifique, mais il y a effectivement du travail. C'est aussi ça qui est à mettre en valeur dans un tel savoir-faire. Donc justement, j'ai envie de revenir sur cette théière que l'on a en face de nous. Il y a à moitié cet effet, en quelque sorte, cet effet d'éclaboussure dessus qui lui donne un style vraiment particulier. Il y a presque une inspiration asiatique. Est-ce que je me trompe dans votre inspiration pour cet objet ?
Non, écoutez, je pense que ça, ça fait partie aussi de ma culture peut-être familiale. J'ai dû être sensibilisée à l'art japonais par... notamment ma maman qui aimait beaucoup ça. Et puis, il se trouve que j'aime bien, en fait, tout simplement la gestuelle, parce que ça, je le fais au pinceau. Et j'essaye il y a un côté un peu aléatoire aussi qui me plaît, parce que la pièce, j'ai mis du temps à la faire. Et puis là, je me laisse un peu aller et je retrouve aussi des gestes que j'aimais bien lorsque je dessinais. Donc ça c'est une série que je me suis amusée à faire depuis quelques mois maintenant. Et puis à côté de ça, je fais.
Il y a d'autres voilà, selon les goûts, les styles, les couleurs, les styles, styles d'intérieur, tout à fait.
Oui.
Donc toutes les pièces, forcément, c'est du fait main. Donc toutes les pièces sont uniques.
Exactement, toutes les pièces sont uniques et je fais quelques petites séries. Mais ça reste vraiment des quantités. Toutes les pièces sont uniques par définition. C'est-à-dire, je ne fais pas de moulage. Je les fabrique une par une et avec passion.
Dans votre quotidien, vous organisez également des ateliers, des cours, dans le but de transmettre aussi aux gens. Alors, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous proposez?
Alors, je propose des séances d'initiation. Découverte. J'avoue que là, les personnes qui viennent passent en général un bon moment, puisqu'elles viennent pour se détendre, pour découvrir aussi les sensations que procure l'argile, donc, et puis le tournage. Et moi, j'aime beaucoup partager ces moments-là avec les gens qui viennent souvent en couple ou en famille, même si je peux recevoir que trois personnes. Donc, c'est vraiment un moment de partage aussi. On est détendu, mais en même temps, forcément concentré aussi, puisque j'essaye de transmettre en fait les bases. Donc, à la fois des gestes de tournage, et puis j'explique aussi l'élaboration des pièces, quelques techniques aussi de tournage, tout ce qui est autour de la terre aussi, puisqu'on récupère la terre. Enfin, il y a vraiment tout un procédé en fait de recyclage. On ne perd rien, sauf une fois cuit, bien sûr, mais sinon, on ne perd absolument rien. Donc, même les pièces qui sont... qui ne sont pas conservés, je récupère la terre et puis je la réutilise.
C'est tout un état d'esprit. Et puis vous le disiez, c'est vrai tout à l'heure que cette activité, enfin cette pratique, vous procure aussi, c'est un moyen de de rester concentré sur quelque chose, mais c'est aussi un relâchement de la pression, c'est quelque chose qui fait du bien.
Voilà, exactement. Lorsque je suis peut-être parfois un peu énervée par des événements d'actualité, eh bien, dès que je suis sur mon tour, en fait, j'ai l'impression de tout oublier, je me relâche. C'est vraiment un moment de relaxation. Alors, évidemment, c'est au bout de 8 heures, c'est physique, mais néanmoins, ça reste un vrai plaisir. Et c'est ce que j'essaye de transmettre, en tout cas les personnes qui viennent me disent à chaque fois c'est super, on a passé un moment vraiment on s'est détendu et puis le fait de réaliser quelque chose avec ses mains et de repartir avec un objet qui a été fabriqué, eh bien c'est vrai que c'est quelque chose qui fait du bien, tout simplement. Je pense qu'on est dans une telle société de consommation que les choses uniques, mais avec tous leurs défauts, c'est ça que je trouve beau, en fait. C'est le côté imparfait aussi des pièces qu'on peut fabriquer soi-même.
Donc vous serez donc au salon Made in France Expo à Paris, porte de Versailles, donc du 9 au 12 novembre.
Oui.
Pour vous, c'est aussi l'occasion de visibiliser votre travail, c'est une reconnaissance aussi de la qualité de votre travail.
Oui, écoutez, j'ai été tout à fait déjà étonnée d'avoir été sélectionnée, je ne m'y attendais pas du tout. Donc je suis très, très heureuse, évidemment, de pouvoir... proposer, montrer mon travail. Et puis, oui, c'est une occasion pour moi de me faire connaître et puis d'avoir peut-être des commandes, d'avoir des propositions peut-être pour des plats, des choses pour la cuisine et puis pour la décoration aussi. J'ai fabriqué des vases pour des décorations florales, des ikebana. Ce sont parfois des propositions qui me font faire des pièces que je n'aurais pas forcément faites d'emblée, comme ça. Donc c'est intéressant. Ouais.
Merci d'avoir été avec nous. Peut-être que nos auditeurs peuvent être interpellés par votre travail. Où est-ce qu'ils peuvent vous retrouver ?
Alors, c'est vrai que je n'ai pas parlé de la petite boutique de Sous nos mains, qui est à Lassay-les-Châteaux, qui regroupe d'ailleurs une quinzaine d'artisans de la région. À partir du 3 novembre jusqu'au 19 novembre, je serai au Pop-up Store, qui est une boutique éphémère initiée pour la première fois par le département de la Mayenne, qui justement fait tout ce travail pour promouvoir les artisans et les artistes et tous ceux qui œuvrent en fait en Mayenne sur différents produits artisanaux. Donc ça sera du 3 au 19 novembre.
C'est à Paris, si je ne me trompe pas.
C'est à Paris, dans le Marais.
Voilà, c'est ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est une belle découverte, votre travail.
Merci beaucoup.
Lucie, avant de poursuivre cet agité du local, on écoute ta sélection musicale.
Avec plaisir, Margot. Eh bien, chers auditeurs, on est le 31 octobre, c'est Halloween. Je ne peux pas résister à cette ambiance étrange et fantasque. Et c'est pour ça que je vous propose de découvrir ou redécouvrir le thème du célèbre film d'horreur de Dario Argento. On écoute Suspiria de Goblins.
Thank you.
Vous êtes à l'écoute de l'autre radio 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. On s'adresse maintenant plutôt aux gastro-gontériens et gastro-gontériennes. C'est bien de comprendre ce qui change, c'est bien de comprendre pourquoi dans notre collectivité. En fait, ça s'adresse à nous tous même. Mais des réunions publiques donc sont organisées à Château-Gontier pour parler des projets futurs et de l'évolution prévue sur le territoire. C'est Philippe Henry, le maire de Château-Gontier, qui nous en dit quelques mots.
Philippe Henry, maire de Château-Gontier sur Mayenne. Comme chaque année, désormais, donc on a pris l'habitude de rencontrer l'ensemble des citoyens de la ville. On a eu nos réunions estivales, là on est plutôt sur des réunions hivernales, donc 5 réunions sur l'ensemble des secteurs hein, de la ville, où on va évoquer un certain nombre de sujets qui font partie de notre quotidien, c'est-à-dire un peu des réflexions que les élus peuvent mener aujourd'hui. Donc il y aura la question de l'eau, on évoquait la sécheresse de 2022 et la prise de conscience aujourd'hui sur le fait qu'à un moment donné, cette eau, il va falloir la protéger. La préserver. Donc on évoquera effectivement là aussi la question de la stratégie du territoire, aussi bien sur les questions liées à l'infiltration de cette eau, à la question là aussi de la production de l'eau potable sur notre territoire et l'alimentation des populations, mais aussi toutes les actions qu'on peut mener chacun à notre niveau pour améliorer le sujet. On a parlé beaucoup de plantation de haies bocagères, ça peut aussi être sur la question de la récupération d'eau de pluie, ça peut être aussi sur les questions de rendre ces parcelles infiltrantes, enfin bref, tous ces sujets qui font qu'on peut tous avoir un rôle à jouer sur ce sujet-là.
Justement, aujourd'hui, vous avez une projection sur 20-30 ans sur cette thématique.
On a effectivement aujourd'hui travaillé, grâce notamment aux scientifiques hein, du GIEC, sur une projection à 20, 30, 40 ans de ce que sera la ressource en eau. Et les scientifiques nous disent très clairement qu'on aura autant d'eau à tomber en volume qu'on en avait auparavant, sauf qu'elle tombera de façon très différente. Et donc si aujourd'hui on ne travaille pas sur la question de l'infiltration des sols, cette eau va ruisseler et partir directement dans nos rivières et donc ne profitera pas au milieu, s'infiltrera pas, donc ne rechargera pas non plus de nappes phréatiques. Donc c'est tout un travail qu'on doit faire sur cette question-là. Et comment aussi on peut préserver la qualité de l'eau, qualité pour éviter effectivement d'y trouver un certain nombre de substances chimiques ou polluantes. Hein. Ça peut être aussi des mégots, des microplastiques. Et donc toutes ces actions qui peuvent être menées à l'échelle locale pour effectivement avoir chacun une œuvre à faire sur l'amélioration de la qualité, parce que l'eau qu'on traite pour la rendre potable, plus elle est dégradée, plus elle nous coûte cher et plus elle coûtera cher demain à ceux qui l'utilisent. Donc on a tout intérêt aujourd'hui à améliorer cette qualité d'eau brute, effectivement, avant d'avoir à payer très cher pour la traiter. Alors l'enjeu, c'est vrai que chacun, à notre niveau, on a en plus un phénomène d'habitat chez nous qui est souvent le mode pavillonnaire, donc on est en capacité de stocker l'eau chez soi. On est en capacité, sur la base de son jardin, de rendre aujourd'hui sa parcelle plus infiltrante qu'elle ne l'est, c'est-à-dire qu'on a des phénomènes de trappe ou de débranchement de gouttières qui permettraient aujourd'hui que l'eau, elle s'infiltre dans le sol, notamment sur la période hivernale, plutôt que de la renvoyer au réseau et à la rivière. Donc on a aujourd'hui un certain nombre de choses qui peuvent être mises en place et on l'évoquera. Certains l'ont déjà fait, d'autres peuvent le faire et je pense que l'enjeu, c'est de sensibiliser tout le monde sur cette question de ressources.
Vous allez présenter les actions possibles des citoyens, mais finalement, tout le monde est concerné par ces enjeux.
Voilà, nous, on va présenter la stratégie dans laquelle on est, les actions qu'on mène aujourd'hui au quotidien, ce qui peut aujourd'hui être amplifié par des usagers. Donc, ça peut être des usagers domestiques, ça peut être des usagers industriels, ça peut être des usagers agricoles. L'enjeu, c'est de faire en sorte que tous ceux qui ont besoin d'eau et qui ont un usage puissent aujourd'hui travailler à diminuer nos consommations avec un peu plus de sobriété et de participer aussi à ces efforts par rapport notamment au milieu.
Parmi les autres thématiques abordées, il y a le plan zéro artificialisation. De quoi s'agit-il ?
Donc là, il s'agit d'une loi qui va devoir s'appliquer à nos territoires. Donc le gouvernement et l'Assemblée nationale comme le Sénat ont validé ce qu'on appelle la loi climat résilience, qui va inviter notamment donc, les collectivités à l'horizon 2030 de réduire de 50% leur surface urbanisable et à l'horizon 2050 d'être sur une logique de zéro artificialisation. C'est-à-dire que pour cela, il faut qu'on arrive effectivement à modifier nos documents d'urbanisme, donc le schéma de cohérence territoriale, ainsi que les plans locaux d'urbanisme, pour voir comment on va pouvoir apprécier l'accueil de nouvelles populations, l'accueil de nouvelles entreprises, sans avoir aujourd'hui à utiliser un nouvel espace, et notamment utilisant la terre agricole. Donc on a tout un travail à faire et de réflexion aussi à mener, parce que sur un territoire qui continue à dynamique avec une évolution démographique positive, on a besoin là aussi de modifier nos façons d'habiter, nos façons de concevoir aujourd'hui de l'urbanisme, et on va être sur un exercice très compliqué quand même, parce que l'objectif de moins 50% va s'appliquer dès l'horizon 2030, et être sur une logique de zéro artificialisation à terme, ça veut dire qu'on va devoir reprendre sur l'espace bâti pour reconsidérer là aussi l'habitat.
Donc l'enjeu de ces réunions est de présenter les différentes évolutions du territoire qui se produiront à court et long terme sous forme de réunions.
L'enjeu, c'est vraiment avoir un temps d'échange et de proximité avec nos habitants, comme on l'a déjà toute l'année sur plein de manifestations, plein de rendez-vous, plein de réunions. Mais l'idée, c'est vraiment d'instituer systématiquement ce temps qui permet à la population d'avoir une relation directe, un contact direct avec l'exécutif, et de pouvoir le faire là aussi dans un format qui tient en deux heures et demie, quoi.
Donatien est en forme, Donatien a mal aux oreilles. Eh bien Donatien, on t'écoute.
C'est un film de Christopher Nolan ou bien un film de Stanley Kubrick ou David Lynch. En tout cas, si Donatien ne se souvient plus du titre, il se souvient que c'est un film américain sous-titré et que malgré ça, il a rien compris. Le cinéma français n'est pas en reste, pour ne citer que Jean-Luc Godard, Mathieu Amalric ou encore Quentin Dupieux. Avec ou sans sous-titres, ça ne change rien. Scénario abscon, incompréhensible, absurde, ou selon une expression que Donatien affectionne depuis qu'il est enfant, sans queue ni tête. De toute manière, certains films français plus accessibles sont rendus inaudibles par une prise de son catastrophique qui fait de la séance cinéma un cauchemar, même pour les bien-entendants. Ce soir, Donatien n'aura pas besoin de prothèse auditive, puisqu'il a invité Ariane à voir Asteroid City en VO, le dernier film de Wes Anderson, porté au nu par des critiques dithyrambiques et dont la première qualité est d'être sous-titré. C'était ça, ou Oppenheimer, un long, très long métrage de 3 longues heures. Rester 180 minutes à essayer de comprendre ce que la bombe atomique doit à la physique quantique, même avec les sous-titres, c'était mission impossible. Presque 3 heures, là aussi, à essayer de comprendre l'intrigue et les trucages imaginés par Tom Cruise pour réussir ses cascades. Installés confortablement dans les fauteuils du palace à Château-Gontier, Donatien et Ariane savourent donc ce soir le charme de Tom Hanks, de Scarlett Johansson et se régalent des références cinématographiques du film de Wes Anderson. Certes, vers le milieu de la projection, Donatien a senti sur son épaule reposer la tête d'Ariane, sans doute endormie. Il a posé la main sur son genou et il n'ose pas lui dire à la fin du générique qu'il n'a absolument rien compris, de peur de rompre le charme de la soirée en passant pour un cinéphile imbécile et un amant inculte. Côte à côte dans cette salle de cinéma, puis la main dans la main sur le chemin du retour, puis joue contre joue dans l'intimité, continuera de se dérouler le film de leur existence avec un scénario qu'ils ne cherchent pas à comprendre. Alors que s'approche le moment où le générique de fin défilera sur l'écran, Donatien se remémore les scènes les plus réussies de son odyssée à lui. Le voyage à Casablanca, sa rencontre avec les filles du docteur March, l'homme de Rio, ses parties de rigolade avec le grand blond, sa chaussure noire et les tontons flingueurs, les larmes à la fin de Love Story, peut-être la première fois qu'au cinéma, comme dans la vie, il n'a pas tout compris. Aujourd'hui, finalement, Donatien se dit que parfois, ça vaut le coup de ne pas comprendre.
J'ai une envie de bailler, C'était la dernière séquence, c'était la dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé. La photo sur le mon frère, le frère sourire ou pleurer, mais je connais le destin, un cinéma de quartier, il finira en garage, en building supermarché. Il n'a plus aucune chance, c'était sa dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé. Bye bye, les héros que j'aimais, l'entracte terminé. Bye bye, rendez-vous à jamais, mes chocolats glacés. À l'école de mon quartier, vers 5h du sorti, mon père venait me chercher. On voyait Gary Cooper qui défendait l'opprimé. C'était vraiment bien l'enfance, mais c'est la dernière séquence, et le rideau sur l'écran est tombé. Bye bye. Les filles qui tremblaient pour les jeux de premier. Bye bye, rendez-vous à jamais, le chocolat glacé. Glacé. La lumière s'éteint déjà, la salle est vide à pleurer. Mon voisin lutte dans ses bras, il s'en va boire un café. Un vieux pleure dans un coin, son cinéma est fermé. C'était la dernière séquence, c'était la dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé. C'était la dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé.
On arrive à la fin de cette agitée du local. Évidemment, d'autres émissions vous attendent et la soirée commence à 19h avec Eldorado.
C'est une émission musicale produite par Pierre Lemarchand.
On est sur quel style musical d'ailleurs, Lucie ?
Le folk et le rock, mais en fait toutes les musiques populaires nées en terre américaine.
Et l'émission est suivie de Frères de chaussures.
C'est à 21h et avec cette émission, on quitte le rock pour le rap français.
L'agité du local revient jeudi, chers auditeurs, mais demain, vous pourrez retrouver à 13h l'ours et la carotte. Et pour passer une soirée au chaud, sous votre plaid, Joël ne vous a pas oublié, vos émissions continuent.
Oui, à 19h, ce sera Novorama avec une sélection indie rock, pop électro.
Suivi à 20h de The Voice of Cassandre.
Et pour terminer, à l'heure où le soleil sera hélas couché depuis un bon moment, Chaosphère.
Chers auditeurs, ça n'arrivera pas le jour où je vous recommanderai de couper votre radio, alors restez avec nous, régalez vos oreilles. On vous retrouve jeudi pour de nouvelles informations du coin. D'ici là, prenez soin de vos familles, de vos familles et enfin bon, vous le savez, faites-le bien.
Oh, c'est déjà la fin, bah, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?
Et quand même, d'autres émissions qui sont bien aussi sur l'autre radio.